Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous continuons le commentaire des épîtres ce dimanche. Et dans l'épître d'aujourd'hui, nous avons entendu le début, ou presque le début du 12e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. En fait, l'épître de Saint Paul aux Romains se divise en deux grandes parties. La partie plutôt doctrinale ou dogmatique, qui parle surtout sur la grâce de Dieu. Et cette deuxième partie qui commence justement avec ce chapitre 12, c'est la partie plutôt morale qui en découle. Parce que chez Saint Paul, et cela est très important, la morale, ce qu'il faut faire, la partie pratique, découle du dogme de notre foi. Et ça s'oppose tout à fait à un certain moralisme, une sorte de fausse spiritualité, de commandement qui ressemblerait à une sorte de code de la route qui serait un peu arbitraire. Non, la morale découle vraiment de la doctrine. Et on pourrait la résumer avec cette phrase toute simple, puisque nous sommes enfants de Dieu, c'est la partie doctrinale, nous sommes enfants de Dieu par la grâce, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons agir en enfant de Dieu, c'est la partie morale. Ou comme le fait remarquer Saint Paul, justement, parce qu'il vient de parler de notre union dans le corps mystique de notre Seigneur, nous sommes membres de notre Seigneur. Alors, puisque nous sommes membres du Christ, c'est la partie doctrinale, nous devons agir en membres du Christ, c'est la partie pratique. Donc, toute la doctrine est comme cela, toute la morale est ainsi. Et donc, après avoir parlé de la grâce, de notre union en notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Paul commence la partie morale en parlant de cette grande vertu, la première de toutes les vertus, la vertu de charité. C'est tout l'objet de l'extrait de l'épître que nous avons entendu à la messe. Et cette partie se divise en deux. D'abord, une partie plus particulière, c'est-à-dire le zèle que nous devons avoir dans notre devoir d'État particulier, qui varie selon chacun. Parce que autre, en effet, est le devoir d'État des parents, autre celui des enfants, ou celui du professeur, autre celui des élèves, autre celui des prêtres, autre celui des fidèles. Donc extérieurement, nos actes varient. Et donc c'est la première partie. Nous devons remplir nos devoirs d'État particuliers avec zèle, avec empressement, de tout notre cœur. Et la deuxième partie, c'est cette charité qui est commune à tous. Au milieu de nos tâches qui sont très variées et très multiples, nous devons tous être animés avec cette charité qui doit être la même tant chez les parents que chez les enfants, chez le professeur que chez les élèves, chez le prêtre que chez les fidèles. Et donc d'abord, le devoir, le zèle dans notre devoir d'État particulier. Saint Paul fait remarquer que nous avons reçu la grâce d'une manière inégale. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes grâces et de même, nous n'avons pas tous les mêmes fonctions. En fait, Dieu a voulu qu'il y ait une inégalité, non seulement dans toute la création, mais encore plus particulièrement parmi les hommes, parmi nous. Une inégalité de talent, une inégalité aussi de tempérament et de goût. Et nous ne voyons pas des choses de la même manière, nous ne sommes pas réjouis par les mêmes choses. Certains sont plutôt joyeux, d'autres plutôt tristes, certains sont plutôt vifs, d'autres plutôt lents, et ainsi de suite. Nous n'avons pas les mêmes tempéraments. Et aussi une inégalité de fonction, d'office, de devoir. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu cette inégalité? C'est pour que nous puissions, pour nous donner occasion de pratiquer la charité les uns envers les autres. C'est la grande raison pour laquelle Dieu a voulu qu'il y ait tant de différences parmi les hommes. Parce que chacun doit, de sa surabondance, donner ce qui manque à son prochain. Certains ont reçu beaucoup de biens de la terre, alors ils doivent faire davantage au monde. D'autres sont plus talentueux, ont plus de facilité dans la science, alors ils doivent enseigner les autres, et ainsi de suite. Nous devons donner de notre surabondance à notre prochain, et c'est cela en cela que consiste la véritable charité. Alors Saint Paul nous dit que ce devoir d'État, nous devons l'exercer, non seulement l'exercer correctement, mais l'exercer avec zèle, en évitant toute paresse, toute négligence. C'est Saint Grégoire le Grand qui dit, à propos de cette parabole des talents, vous savez que dans la parabole des talents, celui qui a reçu 5 talents doit en rendre 10, et celui qui en a reçu 4 en a rendu seulement, celui qui en a rendu 2 en rend seulement 4. Donc, fait remarquer Saint Grégoire le Grand, le juge à venir, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, nous exigera de nous d'autant plus qu'il nous a davantage donné. Nous avons reçu davantage de talents, quel que soit ce talent d'ailleurs, via le bon Dieu nous demandera de le faire fructifier davantage. Donc ça, c'est important à y penser, ne pas se contenter dans notre devoir d'État de faire le minimum, de faire ce qui est strictement obligatoire, peut-on dire, par convenance sociale, mais vraiment d'avoir ce zèle qui nous fait faire tout le bien que l'on peut. Non seulement tout le bien qu'on doit faire, mais tout le bien que l'on peut faire. Il va au-delà. Vous remarquerez que dans les évangiles, notre Seigneur Jésus-Christ nous exhorte souvent, d'ailleurs, comme Saint Paul, à porter du fruit. L'arbre qui est coupé et jeté au feu, donc qui représente l'âme qui va en enfer, ce n'est pas l'arbre qui porte du mauvais fruit. C'est l'arbre qui ne porte pas de bon fruit. Il faut porter du bon fruit. Pas seulement éviter le péché, mais faire le bien, faire de bonnes œuvres. Et puis dans le jugement dernier, quand notre Seigneur condamne en enfer les boucs, ceux qui sont les âmes en état de péché, ce n'est pas tant, bien sûr, c'est parce qu'elles ont fait le mal, mais notre Seigneur n'insiste pas sur le fait qu'elles ont fait du mal, il insiste sur le fait qu'ils n'ont pas, donné à manger à ceux qui avaient faim, ils n'ont pas donné à boire à ceux qui avaient soif, ils n'ont pas visité ceux qui étaient en prison, et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas fait de bonnes œuvres. Et c'est cela que notre Seigneur condamne. Donc il faut avoir ce zèle de faire tout le bien que l'on peut faire. Et alors Saint Paul va détailler un certain nombre de devoirs d'État. Saint Paul n'est pas exhaustif, il ne dit pas tous les devoirs d'État possibles et imaginables, d'ailleurs ce n'est pas possible, mais il va nous donner un certain nombre d'États, de fonctions, de façon à ce qu'on puisse comprendre. Il parle d'abord de la prophétie, donc ceux qui sont prophètes doivent se régler sur la foi. Donc la prophétie au sens un peu plus large désigne la prédication, c'est de proférer la parole de Dieu, donc c'est la prédication. Et donc Saint Paul nous dit que les prêcheurs, les prêtres, doivent nourrir leur troupeau, doivent nourrir les fidèles d'une nourriture spirituelle sûre et vraiment solide. Donc ne pas prêcher des opinions nouvelles, mais transmettre le dépôt de la foi, tout simplement, cela est d'actualité. Mais si on voulait y voir, de manière encore un petit peu plus lointaine, une application qui puisse tous nous concerner, on peut aussi voir dans cet office, tous ceux qui ont charge d'éducation. D'ailleurs, Saint Paul continue en disant que ceux qui enseignent, ils donnent vraiment l'enseignement, que ceux qui doivent exhorter, exhortent. Mais tous ceux qui ont charge d'éducation doivent se régler sur la foi, chercher à vraiment former les intelligences. Les parents, vous devez faire tout votre possible pour que vos enfants aient une vraie connaissance, une connaissance intime du catéchisme. Ne pas se contenter d'envoyer les enfants à l'école et après plus s'occuper de leur formation. Non, il faut s'intéresser à ce qu'ils ont appris. Et surtout, il y a cette connaissance de la foi. Et puis même dans les exhortations, dans tout ce qu'on dit pour faire avancer les enfants, savoir se régler sur la foi, demander d'accepter une souffrance, une difficulté, bien par amour de la croix, par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cela, se régler sur la foi. Élever les intelligences, ou encore obéir parce que les supérieurs, tant les professeurs que les parents, et ainsi de suite, tiennent leur autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'en obéissant à nos supérieurs, c'est à notre Seigneur qu'on obéit. Tout cela, c'est se régler, c'est enseigner, c'est exhorter, en se réglant sur la foi. Et donc ça nourrit vraiment la vie spirituelle de vos enfants, c'est quelque chose d'important. Et Saint Paul continue en parlant du ministère, le ministère Misraré, ça veut dire servir, rendre service. On peut l'entendre dans un sens un peu plus large, de tous ceux donc, qui rendent service au prochain, les œuvres de miséricorde. D'ailleurs, saint Paul détaille un peu en parlant de celui qui partage, donc celui qui fait le monde, doit le faire in simplicitate, donc tout simplement, sans chercher quelque chose, sans attendre quelque chose en retour, mais sans duplicité, comme on dit. Donc, donner le monde, ou faire le bien d'une manière générale, pour l'amour de Dieu, sans s'attendre à ce que l'autre nous rende service. Des fois, on a un petit peu, quand on rend service à quelqu'un, on a un petit peu derrière la tête cette idée, bon, je rends service aujourd'hui, j'espère bien qu'il va me rendre service demain quand j'en aurai besoin. Ou encore, on s'attend à ce que la personne soit vraiment reconnaissante et nous manifeste sa gratitude. Évidemment, tout cela nous fait plaisir. On peut remercier Dieu quand notre prochain se montre aimable envers nous et reconnaissant envers les services qu'on lui rend. Mais ce n'est pas pour ce motif que nous devons rendre service. C'est pour l'amour de Dieu. Et donc, même si notre prochain se montre peu reconnaissant, ingrat, qui ne nous rend pas service en retour alors qu'on en aurait bien besoin, et nous devons continuer quand même à faire le bien. Parce qu'on fait le bien non pas par duplicité, dans le but que quelque chose nous revienne en retour, mais in simplicitate, tout simplement pour l'amour de Dieu. Que celui qui préside ou exerce une autorité, autrement dit, l'exerce avec sollicitude, avec zèle. Et là aussi, c'est très sanctifiant parfois d'exercer l'autorité parce que c'est parfois difficile. Quand vous revenez de travail bien fatigué, vous auriez envie de vous reposer, de vous détendre un peu. Bien non, il faut commencer par vous occuper de vos enfants, s'intéresser à vos enfants, alors qu'on n'en a pas forcément envie. C'est cela, exercer l'autorité avec sollicitude, s'oublier soi-même pour faire le bien, pour exercer vraiment la charité. Et puis enfin, saint Paul parle d'exercer la miséricorde avec le sourire, donc de bon cœur, pas seulement à moitié et parce que c'est un peu nécessaire, mais vraiment le faire de tout notre cœur, avec le sourire. Donc c'est la première partie, notre devoir d'État, remplir chacun nos différents offices avec zèle de tout notre cœur. Et la partie qui concerne chacun d'entre nous, la partie commune, c'est d'exercer nos devoirs d'État particulier avec une vraie et sincère charité qui doit être commune à chacun d'entre nous. Et donc saint Paul donne une liste qui pourrait sembler partir, peut-on dire, un peu dans tous les sens. Mais si on y regarde bien, en fait, saint Paul détaille les caractéristiques d'une vraie charité, d'une charité qui n'est pas purement superficielle, d'une charité qui serait feinte, en fait, mais d'une charité sincère et vraiment surnaturelle. Alors, saint Paul dit que cette charité doit d'abord être ordonnée. Donc, haïr le mal et faire le bien, c'est-à-dire le vrai bien. La charité ne consiste pas tant à faire plaisir, mais à faire le bien. Et parfois, faire le bien implique de déplaire. Bon, par exemple, corriger un enfant, ça lui déplaît. Et pourtant, c'est par charité qu'on le fait. Donc cela s'oppose à une fausse notion de la miséricorde qui consisterait à ne faire que plaisir. Alors que non, la vraie charité, étant ordonnée, cherche le bien de l'âme avant de chercher le bien du corps. Il cherche le bien du corps avant de chercher à satisfaire les petits caprices, évidemment. Donc la charité est ordonnée. Faire le véritable bien, haïr le mal. Ensuite, cette charité doit être intérieure. Ok ? Procéder d'un amour vraiment fraternel. Faire le bien non seulement extérieurement, mais surtout que ça procède d'un amour intérieur. Dans l'Église primitive, les païens se convertissaient en voyant justement cette bonté que les chrétiens avaient les uns envers les autres. Voyez comme ils sont. Et alors les païens se convertissaient en foule. Et saint Paul ajoute, rivalisez d'égard entre vous. Vraiment, chercher à aimer sincèrement notre prochain. Et ensuite, à l'extérieur, saint Paul va insister sur la générosité, la magnanimité, comme il avait parlé à propos du devoir d'État. Soyez sans négligence dans le zèle, fervent d'esprit. Et saint Paul ajoute un motif, pourquoi faut-il être si fervent et si zélé, Domino servientes, car c'est le Seigneur que vous servez. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que l'on sert dans la personne de notre prochain. Vous connaissez par exemple l'histoire de Saint-Martin, quand Saint-Martin avait coupé sa chape en deux pour en donner une moitié à un pauvre qui était dans le froid, qui souffrait du froid. Et après, notre Seigneur est apparu à Saint-Martin la nuit suivante, revêtu de cette moitié de chape qui avait été donnée aux pauvres, parce que c'est à notre Seigneur que Saint-Martin avait rendu ce service. Quand nous servons notre prochain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que nous servons. Donc le fait d'y penser, de faire la charité envers notre prochain avec ce motif de foi, vient nous remplir de zèle, parce que c'est évident que si notre Seigneur Jésus-Christ nous apparaissait comme étant dans le besoin, eh bien, on s'empresserait de faire de notre mieux pour le satisfaire, on ferait vraiment de tout notre cœur. Bien sûr, on a vraiment la foi, pensons que quand nous rendons service à notre prochain, c'est vraiment à notre Seigneur que nous le faisons. Ensuite, la charité donc, doit être non seulement ordonnée, vraiment intérieure, pleine de zèle à l'extérieur, mais aussi elle doit être constante, in tribulatione patientes, donc être constant dans l'épreuve, dans les afflictions. C'est-à-dire que malgré les revers, malgré aussi éventuellement les ingratitudes de notre prochain, nous devons persévérer dans cette charité. Donc la charité, elle ne s'exerce pas seulement quand on en a envie, quand c'est facile, quand tout va bien, quand on se sent les aptitudes pour cela, du goût pour cela, mais vraiment toujours, avec constance. Et Saint Paul nous donne la clé pour trouver cette constance, spigardentes, joyeux dans l'espérance. Notre force, notre secours, notre aide nous vient de Dieu. C'est cela qui fait notre véritable espérance. Notre espérance nous montre aussi que notre récompense, nous ne la cherchons pas ici-bas, mais nous la cherchons au ciel. Et c'est pourquoi nous devons être constants malgré les difficultés. Et pour trouver cette grâce, ce secours de Dieu que nous espérons, eh bien nous devons être in oratione instantes, donc être persévérant, toujours dans la prière, puisque c'est dans la prière que nous trouvons les forces nécessaires, les grâces, que nous obtenons les grâces dont nous avons besoin pour être vraiment charitable. Ensuite, autre caractéristique, l'une des plus importantes de la charité, elle doit être universelle, s'exercer envers tous, donc pas seulement envers nos amis avec ceux avec qui nous avons des facilités, mais aussi envers nos ennemis. Donc il dit partager les besoins des saints, les saints ce sont les fidèles, mais aussi Saint Paul dit bénissez vos persécuteurs, bénissez et ne maudissez pas. Donc cette charité doit s'exercer envers tous, même envers ceux qui nous persécutent. Donc, comme le dit Saint Grégoire, la charité vraie consiste à aimer nos amis en Dieu et à aimer nos ennemis pour Dieu, pour l'amour de Dieu, propter Deum. Et enfin, Saint Paul termine en donnant la dernière caractéristique, c'est qu'une vraie charité doit être pleine de délicatesse, d'affabilité. Se réjouir avec les gens joyeux, ne pas être, comme on dit, un rabat-joie, pour savoir être plein de bonheur vers ceux qui sont joyeux, et puis s'attrister avec ceux qui sont dans l'affliction, c'est la compassion, donc on ne doit pas rester indifférent au malheur de notre prochain, passer notre chemin sans trop s'en occuper parce que bon, on n'a pas envie de s'associer à ses souffrances. Donc, avec ceux qui sont tristes, savoir s'affliger, s'attrister avec eux, compatir. Et enfin, soyez d'accord entre vous, ne pas se diviser sans cesse sur des questions secondaires, ne pas insister sur la moindre erreur de notre prochain pour la pointer du doigt, le reprendre pour tout, mais non, montrer un accord entre nous tous pour vraiment nous donner tout à Dieu. Bien, pour conclure, chers fidèles, demandons à Notre-Dame cette vraie et sincère charité. On voit dans le deuxième mystère joyeux, la visitation, Notre-Dame qui vient prendre, vient servir, en fait, sa cousine Élisabeth, qui était un peu âgée et enceinte, qui avait besoin d'aide. Et Notre-Dame est allée déjà lui rendre un service spontanément, personne ne lui a demandé, donc l'archange lui a simplement dit que Sainte Élisabeth était enceinte, et c'est Notre-Dame qui a deviné bon, que Sainte Élisabeth avait besoin d'aide, donc elle est allée, et l'Évangile ajoute que Notre-Dame est allée prend service à Sainte Élisabeth, cum festinatione, avec rapidité. Donc elle s'est empressée sur le chemin pour exercer cette charité envers sa cousine. De nouvelle, nous devons être plein de circonspection, d'une certaine manière, pour voir bien les besoins de notre prochain et satisfaire, lui exercer la charité, cum festinatione, avec empressement, avec ferveur, avec zèle. Nous demandons cela à Notre-Dame. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.